Quand certains entendent un écho, ils s'imaginent avoir produit le son. Ernest Hemingway.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
Il est 12h05, c'est entrée sans frapper. Il y a Evian, il y a Marie-Agnès Baupin dans ce studio. Il y aura Sébastien Ministru tout à l'heure pour le classico. Il y a Éric Russon. Bonjour Éric.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Les inconnus connus.
Ouais. Comment c'est quelqu'un qui dont on fête l'œuvre il y a un an, ça faisait 100 ans, voilà.
Il y a un an, ça faisait 100 ans.
Et donc c'est un premier indice.
Mais un vrai inconnu connu.
Ah oui.
D'accord.
Ah, oui.
On va parler musique électronique aujourd'hui dans Entrée sans frapper, puisque va se tenir ce week-end le Hangar Festival 2024, premier festival de musique électronique en plein air de l'année. C'est au port de Bruxelles, l'histoire de la musique électronique en Belgique, avec Bernard Debeler et puis avec un des organisateurs de ce Hangar Festival. Et puis une roman graphique que j'ai adoré. Il est signé par le Belge Nicolas La pizza, jusqu'ici tout va bien, adapté d'un roman de Gary D. Schmidt, auteur jeunesse américain. On va parler, je vous dirai tout à l'heure, tellement j'ai trouvé cette histoire puissante. Donc, BD et musique électronique, c'est le programme d'entrée sans frapper aujourd'hui.
Entrée sans frapper sur la première. Classico.
Et le classico, c'est avec vous, Sébastien Ministru. Bonjour.
Bonjour, Jérôme.
Petit détour par la littérature italienne dans ce classico avec un roman d'Italo Calvino, Le Baron Perché, souvent présenté comme un conte philosophique.
Oui, le livre est souvent comparé au Candide de Voltaire et au roman de Rudolf Erich Raspe, Les aventures du baron de Münchhausen. Mmh. Le Baron Perché, Il Barone Rampante en italien, est un texte qui a beaucoup, beaucoup impressionné les lecteurs qui s'y sont plongés dès 1957, date à laquelle donc il paraît en Italie. Il est publié dans une première traduction française en 1960. Le Baron Perché est le deuxième volet d'une trilogie qui s'appelle Nos Ancêtres, paru après Le Vicomte pourfendu en 1952 et avant Le Chevalier inexistant en 1959. Des trois livres, Le Baron Perché est le plus célèbre et peut évidemment se lire et se comprendre indépendamment des deux autres. Le Baron Perché est un texte, je vous le disais, qui a beaucoup impressionné et qui impressionne encore aujourd'hui parce que même à l'époque, eh bien, personne ne s'attend à lire un livre aussi malin et une telle épopée qui se déroule dans les arbres.
Ouais.
Il faut le dire, hein. Une farce qui cache une réflexion sur les rapports de l'homme et de la société, sur comment une société est organisée. Et Italo Calvino nous invite à entrer dans une pure loufoquerie à partir d'un caprice, ou non plus exactement, d'un coup de colère de la part d'un jeune garçon de 12 ans.
Ouais, c'est ça, il se dispute avec sa famille, hein, il se dit, ben moi je monte dans les arbres et tac, je redescendrai jamais. L'histoire se passe vraiment hein, dans les arbres.
Absolument, et c'est l'histoire de toute une vie qui va se dérouler devant nous, dans les arbres d'un vaste domaine, dans le village imaginaire d'Ombrosa, dans le nord de l'Italie. C'est l'histoire d'un homme, héros de sa propre vie, dont l'exploit sera de passer toute son existence sans jamais redescendre de ses arbres et de ses branches et sans jamais mettre un pied à terre.
Et tout cela à cause d'un coup de sang.
Oui, l'affaire commence le 15 juin 1767. Le jeune Cosimo Piovasco di Rondo, 12 ans, vit avec sa famille aristocrate dans la villa d'Ombrosa. Famille aristocrate et à moitié cinglé, tout de même. Sa mère, qu'on appelle la générale, est héritière des von Kurtowitz et est passionnée par les batailles, la guerre, les exploits militaires. Et elle parle allemand. Sa sœur, Battista, est une illuminée qui chasse les rats la nuit au fusil et à la bougie. Une sœur assez bizarre qui prépare des queues de porc frites et aussi des plats à base de foie de souris. Et parce qu'elle a encore préparé ce jour-là des têtes d'escargot, Cosimo ose quitter la table. Il refuse de manger le repas préparé par sa sœur. Il se rebelle. Il quitte la table. Il tourne le dos à sa famille. Il sort. Et va savoir pourquoi, il monte dans un arbre. Ouais. Tout le monde pense qu'il va redescendre, qu'il boude un peu, qu'il fait son intéressant. Sauf que il ne descend pas. Il ne descendra pas. Il passe sa première nuit dans son arbre et il ne descendra plus. Jamais.
Le Baron Perché, c'est donc l'histoire d'une fugue.
Oui, au début, c'est ça. C'est une fugue, une saute d'humeur qui pousse le personnage à quitter la compagnie des hommes, tout en voulant quand même garder un contact ouais. avec les hommes de haut et à reconstruire en hauteur et dans les branches tout un environnement qui va lui permettre de chercher et de trouver le bonheur. Très rapidement, il parle, je cite, de « mon territoire personnel ». Très rapidement, il dialogue avec Viola, la jeune fille du domaine voisin, celui du marquis d'Ondariva, ennemi du père de Cosimo. Il se confie à Viola en ces termes. « Non, non, mais moi je ne descends pas dans ton jardin et pas davantage dans le mien. Hein. Pour moi, ce sont tous des territoires ennemis. Tu pourras monter avec moi et peut-être aussi avec mon frère Biagio. Et on fera une armée seulement en haut des arbres et nous ramènerons la terre et ses habitants à la raison. » Voilà donc le projet de Cosimo, ramener la terre et ses habitants à la raison, puisque visiblement, elle, la terre, et il, ses habitants, l'ont perdu. Indice très important, il cite son frère cadet Biagio, et il est très important d'Olive, parce que c'est le narrateur. C'est lui qui nous raconte l'histoire extravagante de son frère, de ce gamin qui défie le monde et lui prouve qu'il y a moyen de vivre à côté, ailleurs, en hauteur. Le Baron Perché est d'abord un livre sur la désobéissance et sur l'anticonformisme.
Oui, et c'est ça qui fait la modernité du livre d'Italo Calvino. C'est qu'il peut se lire encore aujourd'hui. Il a encore un sens au XXIe siècle.
Complètement. Quand Biagio nous rapporte les aventures arboricoles de son frère, il en fait un modèle. Un modèle de cohérence, un modèle d'engagement. Comme on dit aujourd'hui, Cosimo est aligné. Il ne dévie pas de son engagement. Nous commençâmes tous, et même notre père, à nous convaincre que Cosimo ne devait plus jamais revenir. Le père, qui a honte évidemment du comportement et de la vie de son fils, lève la tête pour lui parler dans les arbres. On peut dire que vous donnez une belle image de vous-même. Voilà un comportement digne d'un gentilhomme. Et Cosimo de répondre. Un gentilhomme, mon monsieur, mon père, reste un gentilhomme, qu'il soit au sol ou au sommet des arbres, pour peu qu'il se comporte avec droiture.
Et tac.
Dialogue avec le père, hyper important. Le père, je vous invite à revenir à terre, dit le baron d'une voix calme. Je n'ai pas l'intention de vous obéir, monsieur, mon père, et je le regrette. Mais vos études et vos dévotions chrétiennes, avez-vous l'intention de grandir comme un sauvage des Amériques? Il y en a une qui comprend ce que son fils veut faire, c'est la générale, c'est la mère de Don Biagio, le narrateur dit. Même si son destin de mère fut différent de celui de toutes les autres, avec un fils aussi étrange et tellement éloignée des affects qui composent une vie normale, elle finit par accepter cette extravagance de Cosimo bien avant nous tous. La mère qui va suivre donc l'évolution, parce que son fils va grandir, à travers une longue vue. Évolution qui passe, vous le découvrirez dans le livre, par les livres et les encyclopédies pour lesquels il construit des bibliothèques suspendues, et par l'amour, oui. Puisqu'à un moment donné, Biagio nous rapporte que ainsi commença l'amour. La fin du livre est absolument magnifique quand, vieux et affaibli, on monte dans les branches un lit à Cosimo pour mourir de façon plus confortable. Faites un truc moderne, lisez un classique, essayez Le Baron Perché, dit Italo Calvino, qui a inspiré cette chanson au groupe folk belgo-italien Marisca Connection. En italien, ben, ça s'appelle évidemment Il Barone Rampante.
Merci Seba.
De 11h30 à 13h,
Entrez sans frapper sur la première.
Notre premier invité dans Entrez sans frapper est Nicolas Pitz. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Vous êtes auteur de bandes dessinées, de romans graphiques. Vous êtes belge, né à Saint-Josse. On vous doit notamment Sombre Citrouille, Traqué, La Cavale d'Angela Davis, Hanté, Les Vous. Déjà à la rue de Sèvres, hein, c'est là que vous publiez votre nouveau roman graphique. Jusqu'ici, tout va bien. D'après le roman de Gary Deschmidt. Alors qui est Gary Deschmidt? C'est un auteur jeunesse américain, un universitaire, hein, d'ailleurs un mec qui a 6 enfants, assez religieux finalement, ce qu'on dirait pas finalement quand on entend les histoires qu'il raconte. Il raconte ici, en tout cas, dans Jusqu'ici tout va bien, qui est une adaptation de son roman Hockey for Now, qui était publié en 2011, publié vers 2016-2017, je pense, à l'École des loisirs en français. C'est ça que vous avez adapté, Nicolas. Alors, pour que les auditrices et auditeurs comprennent bien où on va ensemble, on est en 1969. Bah, il y a des événements en 1969, on le sait. Il y a 500 000 gamins qui vont aller à Woodstock. Mmh. Et puis, il y a 500 000 autres gamins qui sont au Vietnam. C'est une année aussi où on va marcher sur la Lune. Donc, il s'en passe des choses. Et on est dans un pays extrêmement divisé à la fin des années 60 aux États-Unis. Et en fait, votre héros, il s'appelle Douglas. Il a 14 ans. Il habite à New York et c'est chouette d'habiter à New York. Il adore New York. Sauf que dès la première page, pas de chance, son père se fait virer. Il part parce que son père a trouvé un autre boulot. C'est nécessaire pour bouffer dans une petite ville. Un peu de péquenaud, dit-il, une petite ville sans âme, une petite ville de merde qui s'appelle Marysville. Et en fait, bah, toute la famille doit déménager là-bas. La famille, c'est qui ? C'est un père. Pas chouette, le père. Aucun contact sain avec ses enfants, potentiellement extrêmement violent. Homme qui se remet pas en question à chaque page, si je puis me permettre. La mère, elle garde l'église au milieu du village. Le frère aîné de Douglas, bah, il tourne mal, on sent que c'est un petit truand en puissance. Et Douglas, lui, il a 14 ans. Et je pense qu'il est au moment où il doit décider bah, s'il va devenir lui aussi un petit truand ou s'il va devenir autre chose. Et on va voir, en fait, le combat de Douglas pour devenir autre chose finalement. Comment il va entrer dans le monde alors que par pur a priori, le monde ne veut pas de lui. Est-ce que c'est ça qui vous a touché dans cette histoire, Nicolas ?
Ouais, c'était ce changement de destin. À 14 ans, je savais pas si j'allais aller à Saint-Luc, j'ai fait Saint-Luc en BD, ou si j'allais aller à l'armée. C'était un choix qui était devant moi parce que j'étais pas bon. Et un peu comme Douglas, j'avais des problèmes avec la lecture. C'est ce qui m'a poussé à aussi faire cette BD et à adorer ce roman. Je suis tombé amoureux, je me suis reconnu dans Douglas. Donc quand j'ai lu ce roman, j'ai fait « Ok, ce truc, il faut que je le mette en dessin ».
Ah oui, parce que l'histoire de Douglas, vous y êtes bien reconnu, Nicolas.
Ouais, pas dans tout, hein. Ma famille, ça va, hein. C'est pas si catastrophique. Parce qu'en fait, sa famille à Douglas, c'est vraiment l'enfer.
Ouais.
C'est l'enfer, mais en même temps, il y a quand même des petites pistes de sauvetage et des petites bouées par-ci, par-là, où il pourrait s'en sortir. Mais c'est un ado, quoi. Ces bouées-là, on les comprend quand on a 25 ans, 30.
Bien sûr, trop tard.
Trop tard, bien, bien trop tard.
C'est vrai. Alors lui, ça va être le défi de tout le roman graphique et de tout le roman. Hein. C'est est-ce qu'il va pouvoir s'accrocher aux bonnes bouées ? Est-ce qu'il va voir les bouées ? Ou est-ce que comme son frère, comme son père, peut-être, il va passer sa vie à ne pas les voir. Ça commence avec l'amour du baseball. Hein. Il se fait autographier sa casquette par un héros du baseball. Il s'appelle Joe Pepitone. Et en fait, son père, bah, il va lui piquer la casquette et son frère aussi. Et un jour, il va faire un concours, il va gagner d'autres trucs. Et son père va toujours lui piquer. Et pour vous montrer combien ce père est un homme cruel, il veut apprendre la vie, évidemment, à son fils. Comment on picole, comment on baise et tout ça. Mais en fait, il est trop petit pour ça, Douglas, il veut pas. Et donc, son père lui dit, par contre, tu vas aller te tatouer. Et son père lui fait tatouer dans le dos quelque chose d'extrêmement humiliant que je vais pas vous dire, qui est vraiment une pure idée diabolique, en fait, Nicolas. Ce père est diabolique.
Ouais, ce père, c'est un vrai connard, en fait. Il a été élevé, je pense, à la dure, et en fait, il a une image de lui-même qui est catastrophique, et il aimerait que son plus jeune, Douglas, qui ressemble un peu plus à sa mère, bah, lui ressemble un peu plus, justement. Et donc, du coup, il décide, en effet, d'essayer de le transformer, mais comment, enfin, ce type est horrible, quoi. Et donc, justement, ce Douglas, même toute la famille, c'est aussi ça, jusqu'ici, tout va bien, c'est comment est-ce qu'on bat nos liens familiaux? Comment est-ce qu'on sort de ça? Est-ce qu'il y a des gens autour qui peuvent nous aider? Et comme Douglas, ben, quand on est ado, ou comme moi, ces gens, on les envoie péter au début. Mmh. Et puis, en fait, on met du temps, mais petit à petit, on se rend compte que...
Ouais. On est terrible, hein. On est en train de se noyer, on voit des bouées dans la mer et on s'en éloigne. consciemment. On est fait comme ça, hein, quand on est adolescent, finalement. Mmh. Parce qu'en fait, ça va être ça, toute la beauté du roman graphique. Jusqu'ici, tout va bien, hein, Nicolas Pitz. Ça paraît chez Rue de Sèvres. Ça va être de voir cet enfant à croiser des chemins. Il va devoir choisir. Est-ce que je deviens un petit truand ? C'est facile. Mmh. Ou est-ce que je deviens autre chose ? C'est plus difficile. Pour ça, il va falloir ce qu'on appelle les autres. Hein, et il va très, très bien les rencontrer. Parce qu'en fait, ce qui va se passer quand il arrive à Marysville, qui est une ville qu'il va détester au premier regard, parce que c'est rien par rapport à New York, évidemment. Il n'y a pas l'odeur, il n'y a pas le bruit, il n'y a pas la folie, il n'y a pas la furie, il n'y a rien à Marysville. Mais il y a quand même des gens. Et il va commencer par rencontrer Lille, c'est une jeune fille de son âge. Il n'en tombe pas foncièrement amoureux, on ne sait pas si elle en tombe amoureux. Le sujet n'est pas là, et d'ailleurs il le dit, le sujet de cette histoire n'est pas là. Mais elle va quand même l'emmener à la librairie. À la librairie, il y a un livre. Et ce livre, en fait, c'est le livre des oiseaux d'Amérique, qui est signé par un certain Audubon.
C'est ça.
C'est ça, qui est visiblement complètement culte aux États-Unis. En fait, c'est un livre d'ornithologie hein, qui va répertorier les oiseaux d'Amérique avec des dessins. D'une beauté, je suis allé voir. En fait, c'était dingue. C'est sublime. Et en fait, ça va être les arrivées de couleurs dans votre roman. Et en fait, on va se sauver à partir de deux choses. Les autres, on va évidemment y venir parce qu'ils sont pas quand même nombreux dans ce village à avoir des a priori, mais quand même lui tendre la main. Et d'un autre côté, ce qu'on va faire de sa vie. Et ce qu'on va faire de sa vie, en fait, un mec à la librairie lui dit « Mais tu peux essayer de recopier cet oiseau de Dumont ?» Et il dit « Ah non, dessiner, c'est pour les filles, c'est pour les faibles. C'est pas pour les petits voyous comme moi. » En fait, c'est ça qui se passe.
Ouais, c'est exactement ça. Mais Douglas, en fait, il y a une magie qui s'opère quand il voit cet oiseau d'Audubon, parce que c'est une planche originale, et comme tu dis, c'est magnifique. C'est vraiment un truc culte, c'est un ornithologue. Hein. C'est genre, c'est un métier, presque en voie de disparition, je veux dire. Enfin, mais quand il voit ce truc, il se dit « Là !» Il y a une racine, il y a quelque chose qui m'attache. J'ai une attache par rapport à cet oiseau. Il tombe en pamoison. Et en fait, il y a la couleur qui débarque dans mon roman, puisque tout est en noir et blanc depuis le début. Et en fait, c'est un enfant. Il veut essayer de le dessiner. Il veut essayer de créer quelque chose d'aussi beau que ça. Et en fait, il s'y attache et il creuse. Et donc, pendant jusqu'ici tout va bien, on va voir que ces planches, en fait, elles sont vendues à Marysville pour,
ouais, faire, pour sauver un peu la mairie. Hein.
Ouais, l'espèce de communauté qui s'écroule dans tous ces petits bleds, etc. Et donc, cette mairie qui vend ces planches, pour lui, ça va pas du tout.
Elles doivent rester dans le livre, hein, dit-il.
Exactement.
Et en fait, ce qui se passe en fait, à cet âge-là, c'est que pour la première fois de sa vie, quelqu'un va lui dire oh, « C'est bien ce que tu fais.
Ouais. »
On va reconnaître un de ses talents.
C'est ça. C'est un peu bizarre parce que il dessine très bien, Douglas. Ça lui arrive comme ça, tu sais pas d'où, ça tombe du ciel. Mais c'est pas du tout reconnu par personne, sauf le prof, qui est un ancien retraité, qui travaille à la bibliothèque le samedi. Et en fait, il voit ce gamin et en fait, il lui dit, toi t'as une chance, en fait, j'ai une chance peut-être de te sauver. Et lui, il voit en ce vieux juste un vieux con. Et en fait, il y a une relation qui va se nouer entre ce vieux con vu de Douglas et...
Une bouée de plus de laquelle on s'éloigne, avant de comprendre que c'est quand même chouette une bouée. C'est ça, en fait.
Ouais, c'est complètement ça.
Et donc, il y a ça, il y a le dessin qui va commencer à l'habiter. Et puis, cette obsession de vouloir que tous les dessins retournent dans ce livre. Et en fait, ce qui va se passer, comment est-ce qu'il va rencontrer les membres de la communauté de Marysville? C'est une bonne idée du romancier Gary D. Schmidt que vous avez reprise, j'imagine. C'est qu'en fait, il va travailler pour le père de Lille, la jeune fille qu'il a rencontrée, qui lui a l'épicerie du coin. Et en fait, il va faire les livraisons. Et en fait, quand on fait les livraisons, évidemment, on découvre la communauté. Et une fois de plus, c'est beaucoup d'a priori. On a beaucoup d'a priori sur les gens. Les gens ont des a priori sur Doug, mais Doug a des a priori sur les autres. On est quand même mal foutus, les êtres humains, pour se sauver, quand même.
On est nul à chier.
Ouais.
Vraiment. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un truc qui est cool, c'est ces oiseaux. En fait, les oiseaux, c'est des animaux, c'est tout. C'est un dessin, c'est un truc qui vole, c'est genre super beau en fait. Mmh. Ici en Belgique, on a des oiseaux magnifiques et on les voit pas assez, on les voit de moins en moins en plus, mais c'est quelque chose qui est super beau pour un ado en fait. Et moi, je suis passé par là, j'ai eu la chance d'avoir de la famille à Chimay, et donc c'était un peu la cambrousse et tout, et j'allais dans les bois et tout, et en fait les animaux c'est juste quelque chose de magique. Et donc,
c'est ça qui vous a raccroché au monde ?
Ouais, j'ai adoré. C'était un de mes premiers dessins, c'était des espèces de loups. Je copiais du Torgal, ça, c'était un truc rien à voir, mais c'était déjà les animaux, quoi. Je kiffais ça, c'était un truc de dingue.
Et on voit votre plaisir de dessin hein, quand vous les dessinez ici, dans Jusqu'ici tout va bien. Éric Russon.
Oui, c'est une bande dessinée qui va en effet du noir et blanc à la couleur, on ne va pas en dire plus, mais il y a aussi des styles qui se mélangent dans votre dessin. Et puis il y a la description de l'Amérique, puisque c'est une Amérique de la fin des années 60. Quand on lit ça dans un roman, on se fait notre propre cinéma, si je puis dire. Comment est-ce que vous avez reconstitué cette Amérique-là qui est vraiment bien foutue dans le roman graphique? On y est, quoi.
Alors, c'est un truc assez rigolo, mais je suis parti à Vancouver il y a 2 ans. Et donc, Vancouver, Canada, pas du tout là où se passe le roman.
Non.
Et en fait, j'ai vu un petit quartier hyper mignon. Et en fait, j'ai dessiné plein de trucs. Je me suis inspiré sur place de ce que pouvait ressembler New York. Alors, c'est rigolo parce que, enfin, New York, la banlieue de chez banlieue. Hein, donc, c'est très, très loin. Et donc là, cette année, j'ai été dans la banlieue de New York, voir à quoi ça ressemblait. Ça va, je me suis pas trop planté, en fait.
Ah, vous l'avez fait après?
Je l'ai fait après.
Oh, ça peut être très décevant, quand même.
Oui, ça aurait pu, mais ça va. Franchement, ça c'est va. Cool, quoi.
Ça tient la route.
Ça tient la route.
Il y a effectivement un sujet assez fort, c'est qu'en fait, Douglas, c'est un enfant qu'on a rabattu, en fait, hein, parce que scolairement, il n'est pas au top. Et d'ailleurs, il n'est tellement pas au top qu'il a un secret dans les premières pages du livre. Ce n'est pas ça qui tient l'histoire, donc on peut le révéler ici sans problème. C'est qu'en fait, il ne sait pas lire.
Ouais.
Et on va devoir l'envoyer en cours d'alphabétisation. Et il est en scolarité, on le met dans l'école. Et évidemment, en termes de sentiment d'infériorité pour un enfant... C'est très puissant, hein, l'absence de la lecture. Ça fait de vous quelqu'un qui pratiquement ne peut pas exister à l'école. C'était aussi quelque chose d'important à décrire pour vous, l'incapacité scolaire, Douglas.
Ben ouais, parce qu'en fait, moi, on m'a pas rabroué, mais j'étais un mauvais élève. J'étais aussi un peu violent, donc je me reconnais.
Ça
un
va
peu
ensemble, en lui.
Ça va ensemble, hein. Ouais, ouais. Et moi, je suis un peu dyslexique, en fait. Il y a des trucs, je comprends pas la lecture. J'ai toujours eu du mal. Ça a été toujours un gros travail de fond sur moi. Et en fait, je m'éloignais de la lecture, et c'est le dessin qui m'a sauvé. Donc c'est pour ça que je fais de la BD aujourd'hui. C'est parce que c'est mon médium, quoi. Ce truc de pouvoir m'exprimer en dessinant, c'est quelque chose de... Bah, je suis sauvé, quoi, aujourd'hui.
En fait, le livre parle d'un truc absolument essentiel, c'est de voir les bouées, ne pas trop s'en éloigner, de revenir vers elles, et d'avoir sur le parcours de ce genre d'enfants, et il y en a des milliers, des millions, hein, des enfants qui ne trouvent pas leur place comme Douglas et qui sont à des carrefours, et que vraiment, très facilement, ils peuvent basculer d'un côté ou d'un autre, c'est des adultes soutenants. Et en fait, il va en trouver. Dans Marysville, Douglas, des adultes soutenants, il va trouver une femme qui travaille dans le théâtre et qui est isolée là pour écrire ses pièces, qui à première vue est pas la plus sympa, mais elle va lui donner des cours. Il va trouver à l'intérieur du lycée, à l'intérieur du collège dans lequel il est, des profs qui ont l'air compliqués, qui ont l'air violents, mais qui en fait se revoient ado en lui et se disent « Merde, il faut que je sois pour lui celui que je n'ai pas trouvé moi ». Quand j'avais cet âge-là. Donc, en fait, l'existence d'adultes soutenants va être une clé. Est-ce que ça l'a été pour vous aussi?
Complètement. Hein. Moi, c'est quand même l'école qui m'a sauvé la vie, en vrai. Hein. Parce que c'était structurant. Moi, ce qui me manquait, c'était une réelle structure. Et puis, là, je vais juste quitter parce que c'est vrai que je dis que je ressemble à Douglas, mais il y a aussi des limites. C'est-à-dire qu'ici, on n'est plus dans les années 60. Il y a quand même quelque chose de cool en Belgique. C'est que je trouve que c'est quand même bien foutu, quoi. C'est mieux foutu que lui. On n'aurait pas laissé un môme comme ça. Il est très arrivé jusqu'à 14 ans. Il aurait été pris déjà. Enfin,
c'est pas si vrai, figurez-vous. Mais
c'est sans doute pas si vrai.
On trouve encore aujourd'hui en Belgique et en France des enfants qui lisent très 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 mal et qui arrivent à des degrés de scolarité. Pourtant, et tant mieux pour eux parce que ce serait dommage qu'on cale tout. Mais c'est un problème qui existe encore.
Moi, j'ai été pris en main tôt. C'est ça qui me. C'est pour ça que là, c'est là où j'arrête de me ressembler à Douglas. Douglas, il a pas eu de chance du tout parce que c'est vraiment un enfant traumatisé, un enfant battu en fait. Aujourd'hui, on dirait un enfant battu.
Bien sûr.
Et
vous allez découvrir hein, l'histoire de Douglas. Ouais. Alors, on ne vous dit pas si ça termine bien ou mal. On vous dit juste que jusqu'ici, tout va bien. Et c'est déjà pas mal. D'après le roman de Gary D. Schmidt, ça paraît à Rue de Sèvres. C'est un très, très beau roman graphique. Vous avez un très beau dessin aussi, Nicolas. C'est signé Nicolas Pitz. Jusqu'ici, tout va bien. D'après le roman de Gary D. Schmidt, c'est à Rue de Sèvres. Voilà, lisez-le vraiment. Pour moi, c'était un gros, gros, gros coup de cœur. Merci, Nicolas, d'avoir été là.
Mais merci à toi.
The song starts now. What's that sound?
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
saison des festivals démarre en Belgique. Les Nuits Botaniques hein, viennent de commencer cette semaine. Et puis, des gros événements à venir, évidemment, hein, durant tout l'été. Mais là, ça va commencer avec les gros événements de musique électronique. Il va y avoir le Hangar Festival 2024. C'est ce week-end, hein, les 27 et 28 avril, au port de Bruxelles, le long du canal. Et puis, Hangar, c'est une espèce d'association hein, qui organise des concerts de très grande envergure. Maintenant, ils feront un grand événement pour la deuxième fois, hein, d'ailleurs. Sous les arches du cinquantenaire, ce sera le 8 juin, avec Solomon, qui est un immense DJ, et ce sera même Solomon Returns, puisque c'est la deuxième fois, deuxième année de suite. Pour représenter le Hangar aujourd'hui et nous expliquer qui ils sont, Marvin Weimersch. Bonjour Marvin.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Et pour parler de ce que fut et de ce qu'est encore la musique électronique en Belgique, bonjour Bernard Debeler.
Bonjour Jérôme.
Alors Marvin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Hangar? On en entend de plus en plus parler. Alors, on parle d'une musique qui soi-disant est une usine de niche. On arrête, hein, c'est pas du tout une musique de niche, la musique électronique. Hein, c'est une musique complètement mainstream aujourd'hui. En fait, ça dépend quel âge vous avez et surtout quelle radio vous écoutez ou quel internet vous avez. Mais en tout cas, c'est quelque chose de mainstream et on parle pas de petits événements ici. Il y a combien de monde, par exemple, au Hangar Festival, Marvin?
Alors cette année, on aura plus ou moins 10 000 festivaliers.
Ah, et quand il y a l'événement au cinquantenaire, par exemple?
Alors l'année dernière, on était à 10 000 aussi, et cette année, on vise 13 à 14 000.
Voilà, donc c'est des gros événements. On sait hein, aujourd'hui que des festivals d'immense ampleur de musique électronique ont lieu. Hein. Tomorrowland s'est quand même né ici. Bernard Debeler, j'avais une petite question. L'histoire de la musique électronique et de la Belgique, elle commence quand?
Bah, la musique électronique, c'est il y a très très longtemps, mais en Belgique, si j'étais snob, je dirais en 58, mais comme je suis un peu snob, donc je vais dire en 58, on peut parler de la première, c'est vraiment une des premières créations de musique électronique, c'est pendant l'Expo 58, ça se passe au pavillon Philips, et Philips a commandé à Edgar Varèse un poème électronique, donc c'est de la musique expérimentale, Edgar Varèse est un compositeur de musique contemporaine, mais c'est vraiment la première fois qu'on fait de la musique électronique en Belgique. Sinon, évidemment, il y a les années 70, avec les premiers Moog, il y a Dan Laxman, donc il y a Futur Telex, qui est un des premiers en Belgique à acheter un synthé. Je pense que c'était un mini Moog. Il a collectionné les synthés. D'ailleurs, il était très ami avec les gens de Kraftwerk. Et Telex, on rend hommage évidemment à Marc Moulin qui en a fait partie, et Michel Mours aussi. Telex, c'était un petit peu le Kraftwerk belge. Bien pour sûr. Faire un gros raccourci.
Ça, c'est des années 60 aux années 70, c'est le développement. Hein, les premiers synthés arrivent. Dans les années 80, qu'est-ce qui se passe en Belgique?
En Belgique, il y a vraiment une scène qui se développe au tout début des années 80, qu'on a appelée EBM, Electronic Body Music, rien à voir avec l'EDM d'aujourd'hui.
Non.
Et c'est des groupes comme le principal représentant, c'est Front 242, qui tourne toujours d'ailleurs, ils viennent de faire une tournée mondiale. Front 242, groupe belge. Donc ça, ils mettent un petit peu la Belgique sur la map de la musique électronique. Et puis, il y a plein de gens comme Carole, Snowy, Red, qui vont préfigurer la New Beat, qui est le genre musical belge qui a aussi été très très important fin des années 80. Oui.
Parce qu'en fait, à la fin des années 80, notre jeunesse, il s'est passé deux choses qui se sont complètement télescopées chez nous ici en Belgique. C'est d'une part l'arrivée véritable de la techno, et de l'autre, la naissance de la New Beat.
Oui, quand je parle de New Beat, assez rapidement, il y a des groupes qui ont Technotronic, tube mondial évidemment, qui ils ont copié à la fois la techno et la house pour faire ce morceau Pump Up the Jam, mais c'est un tube mondial et ça a mis vraiment la Belgique au centre du dispositif. Et puis il y a le label RNS qui arrive et qui signe tous les gens de Detroit, donc tous les grands musiciens de techno, et qui développe ça. Il y a un son belge qui se développe à ce moment-là. Des gens comme Prodigy par exemple sont beaucoup beaucoup influencés par le son du label RNS.
Alors le Hangar Festival 2024, les 27 et 28 avril, hein, au port de Bruxelles, le long du canal. C'est samedi, dimanche, Chloé Caillé, Clara D, Fiona, Gabriel Quarteng, Honey Dijon, Caillou, Mocha... Je connais personne. Expliquez-moi. Marvin, comment ça se fait que je connaisse personne?
Ouais, on a un bon mix quand même. Toujours, quand on fait des événements de deux jours avec Hangar, d'avoir un petit peu sur chaque scène des choses différentes, même entre les deux jours, pour pouvoir... varier un peu les styles. Et donc, en effet, il y a un peu plus du nouveau. Mais par exemple, Honey Dijon, je pense que ça fait quand même un certain temps qu'elle est là et qu'elle tourne. Mochak, c'est un peu plus récent, mais il est assez high pour le moment. Il a fait un événement cercle là en Espagne, à Séville. Et puis on a un petit peu de tout. Le lendemain, on a Kiki, qui est une artiste qui est très montante pour le moment et qui est très cool aussi, un peu plus techno, je dirais, dans la vibe plus Eurodance, trance.
Okay.
On a Ento, qui est là depuis quand même un petit temps, qui avait joué au Botanique, je pense. C'était un des premiers concerts de musique électro que j'avais été voir au Botanique, d'ailleurs, à l'époque. Donc oui, on a un petit peu de tout, en fait. On a vraiment varié tous les styles.
Mais désir de pas avoir de superstar, par exemple, dans le cadre du festival.
Oui, le festival, c'est
volonté.
Vraiment... Ouais, c'est une volonté. C'est aller... pas de superstar, pas à l'ampleur de Solomon, mais il y a quand même des gros
DJ
noms.
DJ Boring, par exemple.
Exactement, DJ Boring, il y a plein de très chouettes noms, mais on essaye de faire une programmation un petit peu plus recherchée, un petit peu plus variée par rapport à un événement headline comme Solomon où c'est un gros artiste qui va performer, quoi.
Et c'est ça le but d'un festival aussi. Bernard, vous avez des questions?
Oui, c'est très très moderne, évidemment. Ça, c'est vraiment, on est dans les le type de festival qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a énormément, c'est une grosse affiche, hein, il y a beaucoup de DJ, il y a pas mal de DJ locaux, donc des DJ belges. Il y a aussi, je pense, enfin je sais pas si c'est le cas, j'ai pas vraiment fait le calcul, mais on essaie aussi d'avoir une parité filles garçons. Il y a énormément de DJ filles aujourd'hui.
Ouais.
C'est vraiment le truc du moment, quoi.
Mais c'est même pas tellement une question de faire attention. Au final, c'est, je veux dire, il y a tellement aussi d'artistes féminins aujourd'hui super talentueux qu'on n'a pas, je veux dire, au début, tout le monde disait, il faut faire attention à la parité et tout. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu naturel.
Elle se fait naturellement, oui.
Elle se fait naturellement. Il y en a parfois presque. En fait, l'année dernière, on avait par exemple plus de femmes que d'hommes sur le line-up. Cette année, j'ai pas fait le calcul non plus, mais je veux dire, on est plus ou moins à moitié-moitié et c'est tout à fait naturel.
C'est quand même une des tendances lourdes de ces dernières années parce qu'il y a 15-20 ans, par exemple, je viens de revoir des affiches de festivals des années, fin des années 90, début 2000, il n'y avait pas de filles du tout.
Non, clairement. Non, il y a vraiment quelque chose d'assez spécial qui se passait à l'époque où, en fait, je sais pas si c'était en fait, elles osaient peut-être pas se lancer avec un peu tous les problèmes qu'on a connus auparavant, etc. Mais aujourd'hui, je pense que c'est assez intéressant, justement, de voir qu'il y en a de plus en plus et qu'elles prennent une place, en fait, presque autant, voire plus grande que les hommes sur le line-up, exactement.
Des fois.
Nos têtes d'affiche sont des femmes, au final. Ouais. Donc, c'est génial.
Et ce qui est encourageant, c'est que c'est vraiment de la qualité, parce que c'est vrai qu'il y a une période où il y avait un peu des DJ influenceuses, comme ça, avec le DM essentiellement. Là, c'est vraiment des filles qui sont vraiment au top, quoi.
Ouais. Je reviens sur l'histoire, parce qu'on a compris, hein, Carvares 58, Telex, Fondue 4-2, et puis l'arrivée de la techno, l'arrivée la New Beat, ça c'est la Belgique. Il va se passer un truc très important au début des années 90, je le sais, j'avais 17-18 ans, c'est les rêves en France, en Allemagne, en Italie.
En Angleterre surtout,
en Angleterre,
oui.
Évidemment. Pas tant en Belgique.
Peu en Belgique.
Pourquoi?
Oui. Moi, je ne sais pas si c'est la vraie raison. Moi, c'est ma théorie. C'est qu'il y avait un maillage de discothèques, de grosses discothèques qui étaient très, très, très importants. Comme le Boccaccio, c'est plus célèbre. Les gens venaient d'Angleterre, de Hollande, d'Allemagne, de France pour ça. Et je pense qu'il n'y avait pas vraiment besoin de faire des parties dans des endroits, dans des champs, des trucs comme ça. Il y a ça. Et puis, je sais pas, il y a une scène qui s'est vraiment développée ici d'une manière un petit peu plus officielle que ailleurs. En Angleterre, ouais, c'était très mal vu. En France, c'était très mal vu, la techno. Ici, ça a été assez vite accepté. Ça a été vite intégré dans tous ces clubs. Et puis, il y a eu I Love Techno, effectivement, qui préfigurait un petit peu, avec une musique totalement différente, mais c'est un gros événement qui préfigurait un peu Tomorrowland. Il faut quand même se rappeler que toute première édition de I Love Techno...
C'est quelle année ?
C'était en 95, je pense. C'était au Voreuil, donc petite salle. Et Daft Punk était là et ils ont enregistré le morceau qui ouvre leur album Homework, donc enregistré à grand I Love Techno. C'est quand même assez amusant.
Pas mal.
Et puis, bon, il y a eu une scène qui s'est développée, évidemment, de plein de façons, mais il y a aussi eu le Fuse qui est arrivé au milieu des années 90 et qui était le premier club à avoir des DJ qui n'étaient pas des DJ résidents. Donc, ils invitaient des DJ anglais, américains, du monde entier. Et bon, ça a été lancé aussi par Laurent Garnier, qui reste le patron. Mais c'est vraiment l'arrivée de Laurent Garnier au Fuse qui a fait que le club a marché.
Ouais, c'est ça,
donc ça, c'est des moments clés dans l'histoire de la musique électronique en Belgique.
On venait du monde entier au Fuse pour aller au Fuse. Ce qui est très marrant, ce qui a été très marrant pour nous à vivre aussi, c'était, on allait dans des festivals de rock, nous, on est des vieux, c'est comme ça, et on a vu l'arrivée, et c'était évidemment très joyeux, du hip-hop d'un côté, du mouvement hip-hop d'un côté, mais des musiques électroniques de l'autre. Il y a eu un moment où les musiques électroniques ont fait leur rentrée dans les festivals.
Ouais, ça c'est déjà dans les années 90, moi je pense que c'est vraiment Dour... plus que le pop, évidemment, et même un petit peu Werther, donc ils se sont mis à diffuser des artistes. Bon, il y avait les Chemical Brothers, Underworld, gens comme ça. Mais ce qui est très marrant, j'ai retrouvé un article de la Libre Belgique de 2001, parce que c'est cette année-là où il y avait, normalement, Guns N' Roses s'était reformé, ils devaient jouer, ils annulent deux jours avant, il y avait Laurent Garnier qui jouait dans l'autre salle.
Exact.
enfin dans l'autre salle sous chapiteau, et c'est lui qui a remplacé
Guns
N' Roses. Donc ça, c'est vraiment un moment absolument magique. Effet. Et j'ai retrouvé cet article où il disait, enfin il y avait des interviews des gens, il disait ouais, c'est plus possible, c'est pourquoi ils appellent encore ça rock werther, il y a pratiquement autant de DJ, de rappeurs que de vrais groupes de rock, etc.
Petite réaction de boomer.
Oui, c'était déjà les boomers de l'époque, oui. Et donc bah oui, c'est vraiment le moment de l'explosion de tout ça, et la Belgique encore a été une des premières, enfin une des premières régions où on a vraiment mis des artistes de musique électronique. D'abord des artistes et puis des DJ.
Marvin, on sait, hein, après ce qu'il va y avoir, c'est Tomorrowland, hein, qui va être une pierre essentielle de la construction de comment on fait des festivals de musique Évidemment. Électronique, hein, avec une forme de démesure d'ailleurs, hein, il ne faut pas le cacher. Est-ce que vous, avec le Hangar, dit Hangar, que vous organisez ce festival et puis d'autres dates, même en Belgique et même à l'étranger, est-ce que l'air de rien, aujourd'hui, ils ont établi une forme de maître étalon et on ne peut pas organiser un grand festival de musique électronique sans une forme de démesure?
Oui et non, le Tomorrowland, comme on dit, c'est un peu le Disneyland des festivals.
Ouais, c'est,
je veux dire, c'est exceptionnel, mais je pense qu'il y a de la place pour toutes sortes de festivals. Quand je vois en Belgique, on a quand même une offre super variée avec des Horst festivals qui sont justement pas du tout dans la démesure, mais qui sont super qualitatifs aussi. Et nous, avec Hangar, on a été chercher plutôt ce côté de faire découvrir, entre guillemets, le patrimoine, que ce soit bruxellois ou d'autres villes, à travers la musique électronique. Donc on essaye d'utiliser des lieux un peu iconiques. Et c'est ça notre forme de démesure au final. C'est un peu nous, de venir devant le cinquantenaire ou devant l'Atomium ou cet été devant le Palais Royal aussi sur la place des Palais. Mm-hmm. C'est un peu chacun sa forme, je dirais, de démesure. Chacun met l'accent un petit peu où il veut.
Vous, c'est l'endroit que vous allez investir, hein, qui fait
l'endroit
et
les artistes,
la patte
évidemment.
Du Hangar, hein.
Voilà, exact. C'est clairement ça.
Mais Horst, par exemple, tu citais ça, c'est un petit peu l'anti Tomorrowland. En fait, c'est vraiment totalement alternatif. Il y a l'architecture aussi qui est très importante là-dedans, mais il y a aussi Paradise City.
Il y en a plein.
Il y a plein de trucs. Il y a le Listen Festival qui était plus électronique au début. Mais donc, en fait, il y a vraiment une grande offre. Et vous, votre spécificité, c'est ça, c'est d'être dans des lieux emblématiques. En fait.
Oui, parce qu'il y a tellement d'offres, je pense qu'on est un des pays en Europe où il y a le plus d'offres de festivals de qualité, entre guillemets, par rapport à d'autres endroits. Et en fait, tout fonctionne et c'est ça qui est génial, c'est que tout le monde arrive à trouver sa différence et à vraiment faire ce qu'il aime et mettre en valeur aussi des artistes de types différents. Donc,
c'est quoi l'endroit dont vous rêvez en Belgique ou à Bruxelles
La Grand Place.
Investir.
Mais on en a déjà parlé beaucoup à la ville et c'est pas encore jouable. Mais la Grand Place, ce serait clairement un peu le rêve pour Bruxelles. C'est le lieu qui nous manque, on va dire.
Ou les jardins du Palais de la Keune.
Alors ça, on est dessus depuis 3 ans, mais malheureusement, je pense que ça arrivera jamais. On a beau essayer.
Vraiment, mais... vous y allez, quoi.
Ah oui, on a contacté déjà beaucoup de gens différents, mais ils sont pas super open à des festivals.
Non, la musique électronique, ils sont pas open. Les 27 et 28 avril, au port de Bruxelles, le long du canal, c'est le Hangar Festival 2024. Allez-y, hein, c'est une expérience, évidemment. Dit hangar.be pour les places, et puis Solomon Returns, ce sera sous les arches du cinquantenaire en plein Bruxelles à Mérode, ce sera le 8 juin. Merci Marvin d'avoir été notre invité.
Merci à vous.
Et découvrez les activités du Hangar. Merci Bernard de Bollière de nous avoir raconté l'histoire.
Entrez sans frapper sur la première.
11h30, 13h.
Tiens, Eric.
Mais oui, il est toujours là.
Mais qu'est-ce que vous faites là?
Mais je suis toujours là.
Ah, vous êtes venu pour les inconnus connus,
voilà,
peut-être.
Voilà, vous m'avez gentiment demandé de venir et je suis là.
Très bien.
Voilà.
Que cherchons-nous aujourd'hui dans les inconnus connus, dont on va rappeler le principe, Eric Rousson? C'est des gens que tout le monde connaît, mais que personne ne connaît.
Eh ben, j'ai envie de dire même, c'est des gens que personne ne connaît, mais qui ont fait des choses que tout le monde connaît.
Voilà.
Voilà. Il y a des gens qui font peu de choses, et pourtant, ces peu de choses marquent une époque. Et c'est peu de dire que notre inconnu connu d'aujourd'hui a fait peu de choses. Il n'en a fait qu'une, que l'histoire a retenu. Voilà. C'est une sorte d'équivalent des One Hit Wonders. Vous savez, ces chanteurs ou groupes qui ne restent dans les annales que pour une chanson, un tube. Celui qui cache la forêt, évidemment. Et je me rends compte, en écrivant cette expression, qu'elle est déjà un indice pour ce que nous cherchons, qui cache la forêt. Vous comprendrez tout à l'heure. Notre inconnu connu d'aujourd'hui s'appelle Thomas Fiske Goff. Il est né en 1890 à Londres. Il est mort en 1984 à plus de 90 ans. Et c'est à l'âge de 33 ans qu'il a conçu ce qui lui permet de figurer dans cette chronique.
Donc en 1923.
Voilà, 33 ans, cela veut dire que nous sommes en 1923. Premier indice. The power of love, a force from above.
Il a inventé l'amour.
Ah, The Power of Love, sorti l'année de la mort, en fait, de notre inconnu connu, en 1984, avec ce Frankie Goes to Hollywood, l'arbre qui cache la forêt. Ce que nous cherchons a fait oublier le vrai métier de Thomas Fisk Goff. Il était peintre, en fait. On trouve très peu d'infos hein, sur lui, même très peu de photos. La seule qu'on ait n'est pas de très très bonne qualité. Il était peintre.
Donc on cherche une peinture d'un arbre.
Alors.
Ou d'une forêt.
Non, pas.
Ou d'un chevreuil.
Ah, peut-être.
Un petit lapin.
On trouve très peu d'infos. Sauf qu'il a quand même peint 5000 tableaux. Ah ouais, quand même. Et que ses sources d'inspiration sont surtout des paysages, en effet, avec des granges, et qu'il a aussi beaucoup peint le rocher Morro, le Morro Rock, situé sur la côte ouest des États-Unis, au nord de Los Angeles. Cette précision géographique est importante parce que s'il est né à Londres, notre inconnu connu d'aujourd'hui s'est installé dès le tout début des années 20 aux États-Unis. Il est né à Londres, mais il est mort à Atascaredo, en Californie, pas très loin de son cher Morro Rock.
Ok.
Voilà, encore un autre indice. Just stop your crying, it's a sign of the times. Harry Styles.
Ouais.
En 2017 avec son tube hein, Sign of the Times. Quel bel indice.
Il a beau avoir... quel bel indice.
Ah ouais, c'est un bel indice. Il a beau avoir réalisé plusieurs milliers de tableaux, notre Thomas Fisk Goff n'a pas vécu de son pinceau. Si je puis me permettre cette expression.
Mais il est connu pour ça, connu pour un tableau.
Pas pour un tableau. Oh. Ah, on pourrait même dire qu'il apparaît aujourd'hui comme, et qu'on ne prenne pas ça de manière péjorative, un peintre du dimanche en fait. Même s'il avait de la technique, même s'il avait un certain talent, et même s'il avait une impressionnante production, on ne trouve pas ses tableaux dans les grands musées américains. C'est pas Edward Hopper, loin de là. Uh-huh. C'était un artiste sans génie, mais pas honteux non plus, qui pour vivre a dû créer une petite entreprise. Et c'est là que la conjonction de la géographie, mais aussi de la ligne du temps, a été bénéfique à Thomas. Il s'est trouvé au bon endroit, au bon moment, si je puis me dire comme ça. Sa petite entreprise a croisé la route d'une industrie qui en était à ses débuts, mais qui n'allait pas tarder à prendre son envol. Troisième indice.
Hollywood, ça j'ai bien compris.
...1985, l'année après la mort de notre inconnu connu, Running Up That Hill de Kate Bush. Rajoutez cet indice aux deux autres, vous commencez à comprendre.
Il y a un buisson.
La petite entreprise...
Il y a un buisson, une forêt.
Il y a une forêt.
Une colline.
Alors, oui, il y a une colline, la petite entreprise de notre...
Ok, c'est bon, c'est bon. Ah.
La petite entreprise de notre inconnu connu s'appelait la Crescent Sign Company.
Ok, c'est bon.
C'était bien une sûr. Petite entreprise de publicité, d'affichage qui bossait dans les années 30 pour le département artistique fédéral de l'État, mais aussi pendant 25 ans pour la Croix-Rouge américaine. Eh oui, mais ce que nous recherchons est au départ une publicité que sa société, donc lui, a créée, mais qui était censée être temporaire. Elle était destinée à promouvoir le nom d'un nouveau lotissement.
D'ailleurs, le nom, il a été retiré. The Running Up That Hill.
Oui, exactement. Oui, mais enfin, c'est plus précis que ça. Elle était destinée, cette publicité, à promouvoir donc le nom d'un lotissement. On est là dans quelque chose qui n'a rien d'artistique au départ, mais qui a plutôt à voir avec un projet immobilier. Sa création était destinée à attirer l'attention d'acheteurs potentiels pour des lopins de terre situés dans une région de collines. La pub a été tellement efficace qu'elle est restée en place et qu'il est devenu bien plus qu'une publicité. Elle est devenue un signe, un symbole. Parce que récupéré par l'industrie du cinéma.
When I first came to Hollywood, I'd come up here and sit for hours.
Right over there, the observatory. That's where they shot Rebel Without a Cause. Dans cet extrait de Elvis de Baz Luhrmann, le King donne rendez-vous à quelques journalistes dans un endroit précis, symbolique, au pied du monument. Nous sommes dans les années 60, Elvis se compare au monument en question qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Il s'agit évidemment du Hollywood Sign.
Hollywood sur les collines.
Dont notre inconnu connu est le créateur qui a une histoire particulière. Au départ, c'était une pub pour vendre des terrains. Ouais. Thomas Fisk crée une enseigne de 13 lettres au départ, Hollywood Land. Pour le compte d'une real estate qui s'appelait Woodworth et Schultz. Au même moment, au pied de la colline, dans le quartier d'Hollywood, l'industrie cinématographique explose. Des studios se créent avec dans le fond du paysage ce panneau de 15 mètres de haut, de 137 mètres de long, qui fait de la pub pour toute autre chose. Ce panneau, qui était parsemé d'ampoules éclairées la nuit, a rapporté plus ou moins 21 000 dollars à la société de notre inconnu connu. Uh-huh. Et puis, il y a un glissement de terrain, si je puis dire, d'une pub pour des terrains à vendre. Le panneau est devenu le symbole de l'usine à rêve hollywoodienne.
Ouais.
Avec le temps, ce panneau s'est détérioré. En 49, il a été décidé de retirer le Land. Il restait plus que Hollywood. Mais une trentaine d'années plus tard, le panneau n'est plus que l'ombre de lui-même. Il manque des lettres. Ça ne ressemble plus à rien. La grandeur d'Hollywood est loin et la symbolique est forte. Certains artistes décident d'investir, dont ce monsieur. Ah ouais, vous savez qui c'est? Alice Cooper.
C'est vrai.
C'est l'un des premiers. C'est l'un des premiers à avoir fait un don pour que le panneau Hollywood survive. Ensuite, il y aura Hugh Hefner, le patron de Playboy. Et puis, au fil du temps, des acteurs, des réalisateurs mettront la main au portefeuille pour que subsiste la création de notre inconnu connu qui, en réalisant une pub pour des promoteurs immobiliers, n'aurait jamais pensé. Enfin, il l'a compris quand même. Hein. Il est mort en 84, mais qu'il a fabriqué finalement l'image emblématique de toute une industrie.
Ah, oh, c'est dingue, ce Hollywood sign, donc fait pour une publicité, effectivement.
Voilà.
On rappelle le nom de notre
Le nom
connu.
De ce monsieur qui est né à Londres et qui est mort en 84 aux États-Unis, en Californie. Il s'appelait Thomas Fisk Goff.
Ah, oh, merci de l'avoir remis. Hein,
ouais, puis si vous cherchez des tableaux de Thomas, il y en a quelques-uns qui traînent.
Et c'est sympa, en fait.
Bah ouais, c'est des paysages, quoi.
Tant mieux.
Des beaux paysages.
Merci Eric Ruchon. Vous savez ce qui se passe demain dans Entrée sans frapper?
Ah non, mais vous allez me le dire.
On reçoit mon auteur français préféré. Oh. Donc je suis tout content. Jean-Paul Dubois est l'invité d'Entrée sans frapper demain à l'occasion de la sortie de son nouveau roman. Il avait eu le prix Goncourt avec Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Immense roman. Là, il publie L'origine des larmes. Rien que le pitch est complètement
fou. Et le titre
fou.
Aussi.
C'est l'histoire d'un mec qui tue son père qui est déjà mort. Si.
Ah.
On vous explique tout ça demain.
Oui.
Et pourquoi il l'a fait, c'est une autre histoire. Le journal de Diane Bergel-Vernet, c'est tout de suite. Merci Eric, merci Eve, merci Marie-Agnès, merci à vous de nous être fidèles. Excellente fin de journée sur La Première.
La Première.
L'esprit clair. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.